Bonjour, c'est une vie, une œuvre. Aujourd'hui, Lénora Krief et Lionel Quentin vous proposent le portrait de l'artiste Sonia Delaunay, 1885-1979. À son arrivée en France, en 1905, Sonia Delaunay est une jeune artiste fascinée par les peintres fauves et stimulée par la fréquentation de Picasso. Elle épouse, en 1909, Robert Delaunay, un poète qui n'écrit pas avec des mots, mais avec des couleurs. Ils développent ensemble leur propre courant pictural, l'orphisme, mouvement abstrait, né du cubisme et caractérisé par l'association de couleurs très vives et de formes géométriques du cubisme. Quelle audace, cette Sonia Delaunay! Pionnière avec son mari de cette abstraction géométrique, elle affiche dès 1912 son goût pour le décoratif, lui appliquant son art au tissu, à la mode et à l'ameublement.
Ce que j'ai essayé de développer et exprimer dans mes dernières toiles, c'est que la couleur a une vie en elle-même. Et je crois que c'est ça la grande nouveauté de notre découverte. C'est que la couleur parle, c'est comme des mots. On peut faire de la poésie avec des couleurs parce que chaque couleur a sa vie propre.
Elle avait une palette de 400 couleurs. La couleur, c'était sa vie. C'était ce qu'elle inspirait et respirait. C'était la chose la plus importante pour elle.
Sonia Delaunay, des couleurs dans les yeux.
Le jaune est assez rare dans vos tableaux.
Oui, ça s'est éliminé avec la vie, petit à petit. Je reprochais à Delaunay d'employer trop de jaune et orange.
Quelles seraient vos couleurs alors?
Du bleu, du rouge. Surtout du bleu.
Des spirales bleues, vertes, oranges. Des cercles rouges qui viennent se poser sur des carrés noirs, eux-mêmes sous les projecteurs d'un fond jaune. L'art de tout exprimer par la couleur, le rythme. Sonia Delaunay est difficile à qualifier tant elle expérimente ses recherches dans une expansion libre, une conquête d'espaces nouveaux. Ses phrases de couleur ont une puissance musicale, spirituelle même. Sonia Delaunay est une révélatrice de la couleur. Elle a fait descendre la peinture dans la rue, la vie de tous les jours, aussi bien par ses reliures que ses tissus. Avant d'être femme, elle se disait artiste, artiste universaliste. Plus d'un siècle après son arrivée à Paris, on réalise à quel point sa vision de l'art était avant-gardiste, moderne. Comme guidée par un désir profond, intime, elle innovera et avancera sans relâche dans cette voie lumineuse.
Non, tout est sentiment, tout est vrai. La couleur me donne la joie.
Optimiste.
Oh oui, alors.
Quand je vais au musée, comme tout le monde, moi j'ai une technique.
Sophie Chauveau.
Pas forcément la meilleure. Je marche très très vite dans les musées, j'attends qu'un tableau m'attrape par l'épaule. Alors je me retourne, je regarde et je reste devant. Et je me suis jamais retournée devant une toile de Robert Delaunay, alors que très souvent, on pourrait dire que l'étoile de Sonia bouge encore. Ça vibre un peu, quoi. La couleur est encore animée.
Cécile Godefroy.
Elle retient de son enfance, donc qui s'est déroulée dans un milieu relativement modeste à Odessa, en Ukraine, des couleurs essentiellement, les couleurs des fichus, des paysannes, et puis les couleurs des izbas, donc ces maisons traditionnelles russes, très modestes, d'apparence, mais qui étaient parés de tapis, de tapisseries, de bibelots colorés et qui ont profondément marqué l'artiste, comme d'ailleurs beaucoup d'autres artistes russes de sa génération.
Que sait-on alors de sa petite enfance en Ukraine ?
Alors, on sait ce qu'elle a bien voulu en dire et ce qu'une de ses petites cousines en aura dit. C'est très peu de choses, plus quelques échanges de correspondance, mais elle a là aussi, quand on va au Foukhondinsky à Beaubourg où elle a laissé ses affaires, on n'a pas le droit de lire la correspondance intime. Elle est fermée jusqu'en, je sais pas, 2050. Bon. Bref, on sait que elle est d'une famille pauvre. Sa mère, c'est un peu mésalliée. Sa mère, c'est une famille de 10 gamins d'Odessa, juifs observants comme on l'est dans les années 1880. La mère de Sonia épouse un petit juif plus observant encore et donc il l'emmène vivre dans un shtetl, ce qui sont ces petits villages extrêmement fermés où on ne vit qu'entre juifs qui sont presque les ancêtres des ghettos, où il est très très pauvre. Et il lui fait 2-3 enfants. Là aussi, on a une petite incertitude sur le nombre des enfants. C'est intéressant quand même de ne pas arriver à savoir ça vraiment. On sait, on dit 3, 2 fils, 1 fille. Peut-être qu'il y en a plus. De toute façon, sa mère se plaint tellement d'être chargée d'enfants et de misère que son oncle maternel, le frère aîné de sa mère, celui qui est avocat à Saint-Pétersbourg, va traverser quand même Saint-Pétersbourg, le shtetl qui est près de Kiev. C'est toute la Russie, toute l'Ukraine. Hein. Et il va observer pendant une soirée entière, il arrive chargé de cadeaux comme un oncle d'Amérique, il va observer les enfants de sa sœur, lui-même ne peut pas en avoir, sa femme, ou lui, je ne sais pas, ne peut pas, et sa femme se plaint beaucoup de n'en pas avoir, et donc il va choisir, chez sa sœur, un enfant. Alors elle dira, c'était parce que j'étais la plus jolie, j'avais les yeux brillants, enfin bon, il choisit la fille, ce qui est effectivement très surprenant. Il y avait 2 autres garçons. Je prends la fille, peut-être qu'elle avait effectivement ces qualités qu'elle dit. Et il ramène, le lendemain, elle dit au revoir à sa mère qu'elle ne reverra plus jamais de sa vie. Son père, une fois, il lui fait traverser, il fait prendre le train pour la première fois de sa vie dans la grande gare d'Odessa. Il lui achète un petit trousseau, elle a 5 ans. 5 ans. Les papiers disent 9 ans et elle dit 3 ans, mais on sait que c'est 5 ans. Donc les papiers, c'est quand il l'a fait domicilier chez lui à Saint-Pétersbourg, et il va l'élever en lui donnant une éducation, pas de princesse, mais de tsarine, parce qu'il est à 2 pâtés de maison du palais du tsar, et qu'ils font concurrence de cuisinier, le tsar et lui.
Il faut penser, pendant tous ces voyages qu'elle a fait déjà comme enfant...
Matteo de Léo de Monti.
Alors, ce sont des distances énormes. C'est pas 20 minutes en train. Ce sont des grands voyages en voiture, en train et tout ça. Elle a vu les paysages russes naturellement. Et ça se voit aussi surtout dans ses dessins de tissu qui prennent place énormément important dans son œuvre, où elle fait des formes de fleurs, des formes en fait très pas compliquées, mais ce sont des formes géométriques qui jouent, mais qui sont basées certainement aussi sur des thèmes un peu folkloriques. Et en 1918, et même dans son appartement déjà à Paris qu'elle avait avec Robert, il y a des vases où elle mettait des fleurs très stylisées, par exemple, et tous les potirons qu'elle a fait la peinture plus tard aussi en Espagne et en Portugal, ce sont tous des mouvements qu'elle a vus déjà sur tous ses voyages en Russie.
Du coup, elle bénéficie, sauf qu'elle va dans des écoles juives, on n'est pas dans le mélange, mais d'un cosmopolitisme à la maison, parce que comme il est juriste, il s'occupe des affaires de plein d'autres gens. Donc elle a une connaissance, y compris du théâtre, y compris de la peinture, y compris de l'Europe, parce que tous les ans, on fait une ville d'art avec son père et sa mère adoptifs, qui ne l'ont pas adoptée, mais dont bizarrement, une fois à Paris, elle adoptera le nom. C'est très compliqué, Sonia Delaunay. Quand on commence à chercher, elle a 4 prénoms et 4 noms de famille.
Sonia Delaunay a un rapport très complexe à son identité.
Alors, elle a un rapport plus secret que complexe, parce qu'elle sait très bien où elle en est. m'a raconté, là c'est tout à la fin de sa vie, où elle n'a jamais dit qu'elle était juive, où elle disait pas qu'elle était russe, elle était orientale. Hein. Bon, il y a eu deux guerres mondiales entre-temps, on est dans les années 70, elle a une femme de ménage, juive russe, avec qui elle parle russe et yiddish, et qui tous les vendredis lui dit « Allez, Madame Delaunay, un petit Shabbat ». Donc ça n'est pas caché, ça n'est jamais dit. Il faut que ça soit entre soi, dans l'entre-soi russe, c'est-à-dire quand elle parle russe avec des gens, elle parle d'elle, petite, mais très peu aux Français. Elle arrive quand même à Paris, on est peu après l'affaire Dreyfus, hein. Elle vit dans un milieu plutôt antisémite. Quand il n'est pas cosmopolite, il est antisémite, donc elle avance masquée tout de suite.
Et à votre avis, elle s'est éloignée de ses origines pour mener sa vie d'artiste ?
Il y a deux raisons. Il y a une raison adolescente, la première étant plus forte quand on est adolescent, c'est-à-dire elle va aller à 16 ans, passer un an en Allemagne, 17 ans, une autre année d'études de la peinture en Allemagne. Elle va avoir des bons professeurs, classiques, fermes, elle va peindre comme un peintre expressionniste ces années-là. Elle va rentrer à Saint-Pétersbourg chez ses oncles et tantes, père et mère si vous préférez. Et là, elle va comprendre, un peu aidée par son professeur de dessin de Saint-Pétersbourg, que elle va étouffer à Saint-Pétersbourg, elle veut pas faire sa carrière là. Donc elle va plaider pour une année d'études encore à Paris, elle reviendra l'été, ça sera sanglant avec son oncle et sa tante, parce qu'elle veut repartir une deuxième année, qu'elle va obtenir. Il lui cède à peu près sur tout, hein, soyons honnêtes. Mais ça va être de plus en plus âpre comme discussion, parce qu'ils veulent qu'elle se marie, qu'elle vive à Saint-Pétersbourg, ils l'ont un peu élevée pour avoir de la présence autour d'eux. Puis là, comme elle sent bien que si elle y retourne, elle repartira pas, elle fait un truc d'un culot, d'une audace hallucinant. On est en 1907, elle propose à un galeriste de ses, pas de ses amis, de ses relations, qui est le découvreur de Picasso, le découvreur de Braque, qui est un pif incroyable en peinture, mais qui lui-même est un Allemand homosexuel qui veut pas rentrer dans sa famille, donc ils ont le même problème de jeunesse aimantée par Paris et qui veut pas s'en éloigner. Elle lui dit, et si on se mariait ? Et ils vont se marier, ils vont faire un mariage blanc contractuel avec des clauses précises où effectivement ils se marient, elle le fait vivre parce qu'elle a la rente russe quand même, et il ouvre une galerie, il va l'exposer, ils vivent dans la peinture, ils vivent dans l'art, ils n'ont que ça entre eux qui les lie. Et le contrat dit que si je rencontre l'amour, on se sépare gentiment.
Et cette comédie de l'amour, comme vous dites, c'était avec un certain Wilhelm Hude, hein, c'est ça ?
Wilhelm Hude. Wilhelm Hude, dont les collections étaient exposées il n'y a pas très longtemps. Ça a été un découvreur incroyable au début du XXe siècle.
Que l'on voit dans ces premiers tableaux, qui sont majoritairement des portraits, donc portraits de jeunes finlandaises, portraits de Philomène, qui était la couturière des Terques, c'est d'emblée, c'est cette affirmation de la couleur. La couleur est présente dès les débuts. Bien sûr, elle est encore rattachée à un sujet. Nous sommes en 1907-1908. Pour cet ensemble de tableaux, et l'on voit bien combien l'artiste a regardé Van Gogh, mais surtout Gauguin, et puis bien sûr Matisse.
Moi, j'étais directement quand même influencée par Van Gogh beaucoup, et par Gauguin, parce que je les aimais énormément. Mais ça s'arrête là, vous comprenez ? Et puis on essayait d'aller plus loin.
Il y a le bleu, il y a la rose, il y a rouge, il y a un orange, enfin couleur que Sonia disait elle n'aimait pas, mais c'était là. Il y a les bleus doux, il y a les bleus très forts, il y a tout dedans, il y a les gris, il y a tous les juxtapositions, je ne sais pas s'il y a un mot en français, qui sont là.
Avant de rencontrer Robert Delaunay, elle va vraiment exister en tant qu'artiste. Et c'est ce qui, je crois, est important de souligner. Donc Sonia Terk arrive à Paris en 1906. Paris qui est en pleine effervescence artistique, donc le courant fauve a éclaté un an plus tôt, sous la houlette de Matisse. Picasso commence aussi à s'affirmer, donc on est vraiment dans les prémices, dans une espèce de proto-cubisme. Et puis Sonia Terque va absorber en fait toute cette modernité.
Sophie Chauveau, tout en menant une vie bohème, Sonia Delaunay reste pourtant assez sage et concentrée et elle continue de chercher son style en peinture.
Elle va chercher son style jusqu'en à peu près 1904-5, ce qui est très tôt quand même. Elle est très jeune quand elle trouve vraiment que l'abstraction est le mode d'expression. Donc elle va y aller lentement, elle va y aller en étant... On discerne dans les premiers tableaux abstraits ce que ça représente, on discerne encore assez bien. Elle va le chercher longtemps, elle va chercher aussi quel mode de vie elle veut avoir. Alors, elle avait quelque chose sans doute d'une très bonne éducation du début du XXe siècle, ou la fin du XIXe même. On se marie vierge, on a une espèce d'intégrité physique, on ne s'abandonne pas à tout le monde et à n'importe qui, ce qui dans son milieu est déjà un petit peu décalé quand même à ce moment-là. Et donc elle s'est gardée pour l'homme qu'elle aimerait, elle s'est gardée pour Robert Delaunay, qui découvre une femme d'une grande autorité, d'une grande élégance, d'une espèce de puissance déjà de création et de vie. Elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas, Sonia, mais qui est vierge, mais qui l'attendait. Et donc c'est une histoire d'amour. Au début, on ne sait pas du tout si lui l'a vue, si lui l'aime, mais elle est tellement folle de lui qu'elle le convainc qu'il est fou d'elle. Et ça marche vraiment. Ils ont une histoire, mais... qui va durer toute leur vie, c'est une histoire d'amour qui ne se démentira jamais. Moi, j'étais presque choquée, puisque je m'étais quand même habituée à la façon de penser un peu prude de Sonia, qui ne boudonne pas le dernier bouton, comme c'est fermé là. Quand elle est dans les années 20, oui, elle quitte l'Espagne, où elle laisse Robert pour revenir chercher un atelier en France, et elle lui dit, à la fin d'une lettre, au lieu de « je t'embrasse mon chéri » ou je sais pas quoi, « quand est-ce qu'on baise ?» Bah oui, quand même, c'est pas le genre de Sonia Delaunay. Eh ben, dans leur relation, c'était un sacré bonhomme, voilà. Parce que de la même manière qu'elle n'a jamais voulu apparaître ni comme une russe ni comme une juive, elle n'a jamais voulu apparaître comme un peintre femme. Donc elle est un compagnon pour ses camarades, y compris dans son couple avec Robert. Ils sont à égalité, il n'y a pas de... Elle n'est pas du sexe faible, jamais.
Pour moi, les couleurs de Sonia sont beaucoup plus fortes que ceux de Robert. Quand j'étais beaucoup plus jeune, dans les années 60 à peu près, il y avait toujours les gens à l'âge de mes parents et l'âge de Sonia à l'époque, ils disaient mais Sonia Delaunay, c'était la femme de Robert et c'était lui qui était le grand peintre. Et j'avais des cartes postales des deux. Des peintures de Robert et des peintures de Sonia. Et ça m'emmerdait tellement que les gens disaient des choses comme ça, parce que moi, j'étais pour Sonia plus que pour Robert, comme on dit. Et j'ai montré des cartes postales, je disais, alors dites-moi, quelle peinture, c'est quoi, ça c'est Sonia ou ça c'est Robert? Et toutes ces vieilles dames, ou ces vieilles femmes à l'époque, comme je pensais, elle pensait toujours qu'un tableau de Robert était de Sonia et qu'un tableau de Sonia était de Robert. Parce que Robert avait des couleurs un peu plus douces, peut-être, que Sonia.
Robert Delaunay disait « Sonia m'a apporté la couleur ». Il l'a écrit, il le disait, il l'a même écrit.
Patrick Reynaud.
Donc « Sonia m'a apporté de la couleur de l'Ukraine » parce que... tous les arts traditionnels de l'Ukraine étaient très colorés, très vivants, très... et Sonia a amené ça à Robert. Donc quand on dit que Robert était plus important que Sonia, ou quand on rentre dans des espèces de comparaisons comme ça, c'est absurde, puisque quand même les Delaunay ont été connus essentiellement pour leur utilisation de la couleur. Robert reconnaît que la couleur vient de Sonia, donc qui est le leader dans le groupe, hein, on peut se demander, parce que si on regarde les œuvres de Robert Delaunay, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais d'avant la rencontre avec Sonia, c'était les Tours de l'An, qui sont des œuvres cubistes grises et bleues, c'était le néo-pointillisme aussi très très gris, marron, vert, et à partir du moment où ils sont rencontrés avec Sonia, C'est ce que Apollinaire a appelé l'orphisme. C'est un éclatement de couleurs, une joie de peindre. Il y a des tableaux de Robert qui s'appellent La joie de vivre, d'ailleurs, qui sont dans les jaunes, dans les oranges, dans les bleus, dans les verts. Et cette palette-là, c'est Sonia qui l'a amenée.
Et ils vont tous les deux se mettre à jouer avec les couleurs pour les faire bouger. Ils vont inventer ce que Apollinaire appellera l'orphisme et qui est en fait un simultanéisme des couleurs. Et comment, en bougeant les couleurs, on bouge les tableaux. Et ça marche, de fait, quand on les voit. En plus, il y a des... Sonia, elle, très tôt, elle va tout conserver de ses travaux préparatoires. Donc on voit comment ça évolue, c'est passionnant.
C'est Robert Delaunay qui va théoriser le simultanisme. Alors, à une époque où c'est un petit peu la guerre des ismes, si vous voulez. Donc, on a eu bien avant donc l'impressionnisme, le pointillisme, le fauvisme, le cubisme, et au même moment vont naître le futurisme. Donc, il y a cette volonté pour chacun des artistes d'affirmer l'autonomie de leur courant. Et donc, Robert Delaunay va définir les propriétés du simultanisme en s'inspirant d'un traité scientifique, un traité des couleurs, publié par Eugène Chevreul au XIXe siècle, qui s'intitulait « De la loi des contrastes simultanés des couleurs ». Donc, il y a déjà cette idée de simultanéité et l'idée de couleurs. Qu'est-ce que le simultanisme, en quelques mots très simples? Ça n'est pas un courant pictural, c'est véritablement un courant esthétique qui doit aller par-delà la peinture et qui doit justement imprégner tous les champs de la vie, tous les champs du quotidien. Ce en quoi le couple Delaunay va être véritablement essentiel et complémentaire. C'est-à-dire que tout ce que Sonia Delaunay va pouvoir réaliser dans le domaine du textile, de la mode, de la poésie, de la publicité, rejoint totalement en fait le grand programme, si vous voulez, du simultanisme. Robert Delaunay s'estimait peut-être grand théoricien, Sonia pas du tout, donc elle l'a vraiment laissé écrire et s'occuper donc de théoriser ce courant. C'était important de le faire vraiment, parce que tous les artistes à cette époque publiaient. Robert l'a fait pour le couple. Sonia ne voulait absolument pas le faire. Et c'était important parce que c'était vraiment un moyen d'affirmer l'autonomie d'un courant, voire sa primauté sur un autre. Donc, c'était assez essentiel.
Elle faisait pas dans sa tête une différence si elle faisait quelque chose pour un dessin ou pour un grand peinture. C'était la même chose. Sonia, à la fin de sa vie, elle détestait l'idée d'être associée avec les arts appliqués. Elle n'aimait pas du tout ça. Elle ne voudrait pas qu'on pense que c'est plus petit. Pour elle, c'était la même chose, c'était la couleur.
Après la naissance de leur fils, Charles, Sonia offre un premier cadeau, une couverture abstraite. Et donc, sans en prendre conscience, Sonia Delaunay a inventé un patchwork.
Oui, sauf que, c'est intéressant, d'abord, elle fait comme toutes les mères, quoi. Elle ramasse des bouts de tissu, elle les assemble pour qu'il y ait une couverture. Il naît en hiver 1911, il y a les crues de la Seine, enfin, il fait froid, quoi. Donc, elle fabrique ce truc en fin de grossesse. C'est pas du tout faire une œuvre d'art, pas du tout. Et le patchwork, qui est un mot qui nous vient d'Amérique, qui est une invention du 19e américain, en fait, ça existe en Ukraine. Les paysannes ukrainiennes, elles assemblent les bouts de tissu, elles font ça. Sauf que, et les Américains et les Ukrainiens n'ont pas compris. Ce que Sonia, elle, a compris, c'est qu'elle disposait des morceaux d'une certaine forme, elle redonne des formes. Les Américains ont tendance à faire des carrés ou des rectangles. J'imagine que c'est plus facile pour les assembler en couture. Elle donne des formes et elle cherche à assembler les couleurs de la même manière que sur un tableau. Donc elle se préoccupe absolument pas du support, elle fait la même chose que sur ses toiles. Sauf que là, c'est pour couvrir le lit de son enfant, elle va faire la même chose avec le coffre à jouets de son enfant. Aujourd'hui, toutes ces œuvres sont dans les musées, parce que c'est des chefs-d'œuvre, et c'est des chefs-d'œuvre novateurs. On n'avait encore jamais fait ça. Mais elle, elle fait de façon comme une jeune mère, un peu débordée par la maternité. Il faut tout faire, quoi, à la fois. Et c'est ça qui est sympathique aussi.
Mais cette couverture abstraite, elle est assez majeure dans sa trajectoire, puisque
c'est nous qui l'avons jugée telle. C'est les critiques, Elle, elle le sait pas du tout quand elle le fait. Et après, ça va rester dans un coin sur le lit de son fils jusqu'à ce qu'un critique dise « Mais attends, ça c'est une œuvre d'art. » Et elle dit « Ah bon, c'est comme un tableau. » Et pour elle, c'est pas différent. Et le grand malentendu qui va venir se greffer sur Sonia Delaunay dans les années 30, c'est qu'elle va utiliser n'importe quel support, y compris des supports qu'elle va commercialiser comme des robes ou des tissus ou des choses comme ça. Pour elle, c'est pareil que peindre. Et on va dire que c'est un artiste décoratif. On va cesser de penser que c'est un artiste peintre parce qu'elle a quitté, proprement parlé, la toile, le chevalet. Elle fait sur n'importe quel support. Et c'est aussi ce côté, je pense, ukrainien.
La prose du Transsibérien, Alexandra.
1913.
C'est vous qui avez eu l'idée du livre ?
Non, c'est lui. Il a fait le poème et il m'a demandé de le relire, de le présenter, enfin. Mais Delaunay lui a donné l'idée de le faire sur 2 mètres de haut. Et en disant que tous les volumes ensemble feraient la hauteur de la tour Eiffel.
Je pense qu'on peut parler presque d'un coup de foudre amical entre Blaise Cendrars et Sonia Delaunay. Et donc, Blaise Cendrars va proposer à Sonia Delaunay de réaliser un ouvrage commun. Et il s'agira de la première peinture poème, ou du premier poème peinture, qui se lit autant qu'il se regarde. Donc, premier poème simultané. Donc, il compose son poème et Sonia Delaunay va immédiatement le mettre en couleur. Donc elle ne parle pas d'illustration, elle va parler d'improvisation colorée. Donc déjà par son format, c'est une poésie verticale, c'est un format totalement singulier, qui est presque le format d'une grande personne qui revêtrait un habit de lumière, évidemment l'habit simultané. Et puis ensuite, quand on le déplie, quand on le regarde, posé par exemple contre un mur, on trouve donc le texte du poète sur la partie droite, auquel répond sur la partie gauche une sorte de guirlande, donc de forme oblongue et colorée, qui se déroule à mesure que l'on progresse dans le texte et qui suit vraiment finalement les déambulations du poète et de la petite Jeanne de France en train. Il y a vraiment cette idée de rythme avec des rythmes très différents. C'est totalement non figuré, donc complètement abstrait. Il n'y a qu'un seul motif qui se trouve en bas de la composition, c'est celui de la tour Eiffel, qui est peinte en rouge, entourée donc d'un cercle orange et qui marque cette arrivée à Paris, donc dans la ville lumière, la ville moderne par excellence.
La première robe simultanée et le tango au bal Bullier.
Oui, nous allions tous les jeudis à Bullier.
Les premiers costumes qu'elle fait, c'est dans les années 11, 12, 13 à Paris, pour le bal Bullier, où elle habille tous ses copains. Et ses copains, c'est des peintres, c'est Fernand Léger, c'est Arthur Cravant, c'est Cendrars, Apollinaire. Tous ces gens-là vont danser au bal Bullier tous les dimanches après-midi. Ils sont habillés avec des gilets en toile à matelas. Ils ont 2 chaussettes de couleurs différentes systématiquement. Ils ont des cravates hallucinantes de fantaisie, avec des tissus qu'elle va chiner, qui sont incroyables. Elle leur donne des vestes avec des manches rouges, des manches jaunes. Elle fait des choses pour habiller ses hommes, et elle, bien sûr, de façon incroyable, on dirait costumée aujourd'hui. Elle les habille de façon fantaisiste, c'est-à-dire il faut qu'ils aient leur personnalité qui sorte dans le vêtement. Et c'est important parce que ça va être sa ligne de conduite toute sa vie. Elle s'adapte non pas pour faire des robes à la mode pour la saison qui vient et tout ça. Elle s'adapte à la personne qui va la porter. Et je crois que s'habiller doit être drôle aussi. C'est pas féminin, c'est pas érotique, c'est pas du tout ça. C'est élégant, donc on pourrait dire féminin ou français. Mais c'est drôle. Il faut que ça soit drôle.
La couleur, c'est avant tout l'expression de la lumière. La lumière naturelle, mais aussi et surtout chez Sonia Delaunay, la lumière électrique. Puisque la plupart de ses grands tableaux d'avant-guerre, en tout cas entre 1912 et 1914, sont directement inspirés par les globes électriques qui illuminent les rues parisiennes ou les grandes salles de bal, comme la salle du bal Bullier.
C'est l'époque où on commence à éclairer les rues à l'électricité.
Nous allions nous promener au boulevard Saint-Michel et étudier les lumières qu'après j'employais dans mes tableaux.
La typographie.
C'était un besoin d'inclure des lettres, des...
Mais c'est Sonia Delaunay qui entretient le couplant, plutôt.
Jusqu'en 20, c'est la rente russe. Enfin, jusqu'en 18, jusqu'à la révolution russe. L'oncle et la tante, qui vont mourir avant la révolution, ont mis des appartements au nom de Sonia, et elle en touche, enfin des appartements, je crois que c'est un immeuble, en vérité, à Saint-Pétersbourg. Mais les communistes ont bien effacé les traces, j'ai pas retrouvé l'adresse. Donc elle touche les loyers, et tous les mois, à la banque à Paris, arrive un gros chèque avec lequel elle fait vivre non seulement Robert, et d'abord Wilhelm Hude, à qui elle a payé une galerie quand même de peinture, mais tous les copains. Tous les copains savent que deux fois par semaine, on mange bien chez Sonia. Et on boit. Donc, elle fait tourner des grosses maisonnées.
Les artistes, il y a toujours cet aspect qu'on oublie, qui est comment vivre de son art, par exemple. Et Sonia Delaunay, Robert Delaunay... Certes, ils ont vendu, certes, ils ont été reconnus assez vite, mais elle m'a raconté comment c'était elle qui avait fait bouillir la marmite, ce sont ses propres mots, mais bouillir la marmite en faisant des choses qui l'intéressaient, c'est-à-dire qu'ils sont partis au Portugal et à Madrid, elle faisait des chapeaux, elle faisait des arts appliqués, mais sans honte et avec joie, parce que c'était une façon de retrouver cette idée que l'art doit être dans la rue, l'art doit être très proche des gens, il ne doit pas être simplement dans les musées.
Ils arrivent en Espagne, la déclaration de guerre. Alors il se passe quand même deux choses très bizarres. Déclaration de guerre, Robert est réformé pour des raisons de souffle au cœur. Donc il n'a pas de raison d'y aller, il va quand même à l'ambassade de France pour voir si c'est vrai, s'il n'est pas obligé d'y aller. Il n'a pas une once de nationalisme, il ne se sent pas du tout patriote, la guerre il s'en fout complètement. Il est un des rares artistes, avec Picasso, qui s'en fout complètement, parce que Braque, parce qu'Apollinaire, parce que Sandrars, bon, Apollinaire et Sandrars ne sont pas français. Ils s'engagent alors qu'ils ne sont pas français, ils veulent sauver la France. Braque va faire une guerre incroyable, plein d'autres de Rhin et les autres vont partir, juste, Picasso ne bouge pas, Robert Delaunay reste en Espagne. C'est vraiment les deux qui ne bougent pas une oreille. Et il va passer en Espagne. Ils vont rester de 14 à 20 en Espagne, au Portugal, où elle va ouvrir une boutique après la révolution soviétique, parce qu'il faut faire tourner sur le même pied, dont tous ont pris l'habitude. Tous, c'est Robert, son fils, mais la mère de Robert aussi, elle nourrit tout le monde. Et donc, elle va ouvrir une boutique, grâce à Diaghilev, où elle va vendre tous les produits qu'elle est capable de fabriquer. Des chapeaux, des éventails, des tissus, des nappes, n'importe quoi. Et ça va marcher du feu de Dieu. Donc Robert lui dit, tu vas en ouvrir d'autres, on va en ouvrir partout. Il dit, j'aimerais bien peindre un peu quand même. Et elle ne va pas peindre pendant encore, jusqu'en 36-7, je crois. Mais du coup, Robert passe pour tous ses artistes et pour tous leurs amis, pour qui cette guerre est très importante, pour un déserteur, pour un planqué, pour un qui reste à l'arrière. Et donc, il ne revient pas en 18. Ils reviennent en 20-21. Et là, tout le monde leur fait la gueule.
Et vous pensez qu'elle a laissé la peinture à Robert en se consacrant aux arts dits décoratifs?
Non, elle sait, nous ne le savons pas, nous allons le découvrir avec elle, que c'est temporaire, que c'est pour les faire vivre. Charles est un enfant qui a des besoins d'enfant, il faut qu'il ait... Elle a grandi chez une femme qui avait une grosse domesticité, elle ne s'est jamais privée d'avoir des cuisinières, des bonnes, des gens à la maison, hein. Parce qu'elle déteste ce boulot-là. Par exemple, elle ne le fait pas le ménage, Sonia, ça l'emmerde, elle veut pas. Donc c'est pas du tout une femme d'intérieur, c'est une femme d'extérieur qui fait de l'art intérieur.
Elle avait quitté et elle avait fondé une autre firme qui s'appelait Tissu Delaunay. Et ça, c'était commencé en 1929. Mais aussi là, bon, c'était pas facile. Ça veut dire qu'en 1930, elle avait démissionné presque tous les gens qui employaient pour elle. Et elle était vraiment un one-woman show. Alors, elle faisait tout. Et c'est là, à cette époque, que mon grand-père a commissionné des dessins tissus chez elle. Et à partir de août 1930, cette collaboration devenait plus intense.
Sonia Delaunay refusait de collaborer avec des commerçants parisiens. Qu'est-ce qu'elle craignait, en fin de compte?
Elle voudrait pas être commerciale. C'est un peu un paradoxe. Parce que, en fait, dans ses journaux, j'ai bien aperçu qu'elle voudrait aussi, avec Robert, toujours avoir une affaire et gagner de l'argent. Ça, c'est un paradoxe. Mais elle voudrait être libre comme peintre, comme artiste. Et quand on est commerçant, il y a beaucoup d'administration. Il faut être bien strict. Il y a des règles à suivre. Et ça... Elle était trop indépendante pour faire ça. Ça, c'est un paradoxe aussi, mais plus tard, elle s'est libérée de tout ça et elle est devenue une grande peintre.
Et alors là, elle devient...
Elle devient la reine de Paris. Et je l'ai vue. J'ai eu la chance, petite fille, d'aller au vernissage chez Denise René et surtout à Arcurial, où elle est vraiment la patronne. Et elle est là, vieille dame. Elle est un peu comme quand elle est vieille, elle est un peu vieille. Elle a 90 balais quand même, hein, quand elle meurt. Elle est toute tassée. Et elle a un sourire extraordinaire. Et avec cet accent qui ressemble à la fois à un accent berrichon et à un accent soviétique, qui est un mélange des deux avec la rondeur qu'elle y met. C'est très très joli. C'est une très très jolie vieille dame, voilà. Et elle est bienveillante et humble comme les grands artistes, d'une humilité magnifique. Il y a par exemple un truc très très drôle. Il faut retrouver, c'est une interview par Jacques Dutronc.
Jacques Dutronc est allé interviewer à la Galerie du XXe siècle. Je vous laisse en leur compagnie.
Sonia Delaunay, bonjour.
Bonjour.
Oui, je suis très 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 honoré de faire enfin votre connaissance. Oui, parce que je connaissais que vos peintures.
Et moi je connaissais vos chansons.
Oui, bon, je voudrais vous demander d'abord, je regarde rarement la télévision, mais, sauf quand j'y chante d'ailleurs, parce que... Je suis assez content de me voir, ça. Puis je me trouve bien. Et puis j'ai vu que vous parliez de Guillaume Apollinaire. D'abord, j'étais très jaloux parce que vous le connaissiez très bien. Alors,
oui, nous l'avons connu en 1911. Il habitait chez nous et puis c'était un ami. J'aimais bien le voir manger.
Il mangeait bien, quoi.
Oui, c'était un grand mangeur et... Et il faisait ça aussi bien que sa poésie.
Oh. Mais vous avez peint une voiture aussi?
Ça, dernièrement. Oui.
Je l'ai vu,
pour une bien. Heure de bienfaisance. Oui. Oui.
Bon, alors, si vous voulez, on va reparler des robes. Mais enfin, pour les robes, ce n'est pas tout à fait mon rayon. Je préfère laisser ça à M. Marquebon, le couturier.
Oui, moi, j'ai toujours tout changé autour de moi.
C'est à quelle époque, la première robe?
La première était de 1913. Et j'ai dit à Dutronc que je l'avais fait avec des échantillons de tailleurs que mon mari m'a apporté à la maison. et je l'ai portée. Personne n'était choqué. J'ai commencé à faire les robes. Des croquis, j'en ai toujours fait. Et je dois dire que c'est ça qui a aidé la peinture moderne de rentrer dans la vie. Parce qu'à l'époque, le moderne était une bête noire.
Quelle image de la femme elle véhiculait justement au travers de ses pièces, de ses vêtements ?
Alors, elle qui est très très élégante et pas du tout féminine, c'est intéressant. Un peu homasse, elle est grande, elle est forte. Alors, on a eu beaucoup de problèmes avec mon éditeur pour essayer de trouver une photo d'elle où elle soit pas moche, parce qu'elle est pas belle. Elle a un visage ingrat. C'est une ingratitude de trait, on n'y peut rien, c'est comme ça. Petite fille, elle est ravissante, et vieille dame, je l'adore. Elle est tout ce que j'aime en vieille dame. Et évidemment, les années principales où on la prend en photo, c'est entre 30 et 50. Et là, elle est pas belle. Elle est très, très élégante, toujours. Elle tient à sa tenue. Et sa tenue, ça va jusqu'au vernis à ongles qui est jamais écaillé, quoi. Elle est coiffée, elle est toujours. Et c'est une exigence qui lui vient de sa tante, la femme qui l'a élevée, de la grande tenue. Le tsar peut arriver, il faut se tenir bien. Bon, très bien. Donc elle a cette élégance qu'on dirait aujourd'hui, parce qu'elle va s'habiller après chez les grands couturiers, quand elle fera plus que de la peinture. Elle ne dérogera pas, elle sera en Chanel, elle sera très très élégante. Donc, ça, c'est une exigence de base, c'est qu'on ne se montre pas comme on est. On avance masqué. Et l'élégance suprême, c'est qu'on ne voit rien d'autre que la tenue. Donc c'est vraiment très très réfléchi chez elle. Ça a vraiment à voir avec son caractère. Moi, je l'ai découvert parce que je ne savais pas. Donc elle est un peu homasse, elle est grande, elle est forte, mais enfin, elle n'est pas grosse, hein, comme ça. Et elle ne fait pas du tout dans la séduction. Elle est un homme comme les autres.
Un homme
comme les autres, elle est un peintre comme les autres, elle est un peintre français. À aucun moment, elle n'acceptera d'être féminisée. C'est très étonnant.
C'est très féministe, hein, finalement.
Oui, parce que c'est le féminisme universaliste. C'est ce qu'on n'a pas compris sur l'instant. De la même manière qu'elle n'est pas... Elle est juive universaliste, elle n'est pas confinée dans un truc, elle est femme universelle. Mais donc, un homme comme les autres.
Sonia se considérait comme une artiste. Et elle considérait vraiment que l'art est international. Elle n'a jamais parlé ni d'art russe, ni d'art français, ni d'art... L'art pour elle est international, lié à la vie, profondément à la vie de tout le monde. Et elle ne voulait être rangée nulle part. Elle ne parlait plus russe, puisqu'elle était en France, elle adorait la France. Elle avait été en Allemagne, elle parlait allemand aussi, elle avait parlé allemand. Mais je veux dire, c'est une femme qui s'adaptait à toutes les situations et elle ne voulait pas rester dans des chapelles. Elle ne voulait pas qu'on la considère, on ne voulait pas plus qu'on la considère comme artiste juive que comme artiste femme. Elle était une artiste, point final. Voilà.
Même Charles, son fils, ne savait pas que sa mère était juive. Elle était née dans une famille juive modeste, mais elle a abandonné tout ça. D'abord, son oncle, où elle est éduquée, ils étaient assimilés, alors il n'y avait pas de grandes fêtes juives et tout ça. Mais elle se sentait aussi, quand elle était en France, elle se sentait très française et elle ne voudrait pas être vraiment associée avec une vie qu'elle avait quittée. Et c'est pour ça on ne voit pas aussi dans ces journaux ce problème. On ne voit que, franchement, juste avant la guerre et pendant la guerre, parce que, naturellement, dans son passeport, c'était Sarah Stern, aussi Delaunay, mais on ne pouvait pas le nier, là. Et naturellement, ils sont en fuite de Paris pour aller au sud au début de la guerre. La Seconde Guerre mondiale. Et elle a eu vraiment de la chance, parce que si on a vraiment su qu'elle était juive, je crois, ça pourrait finir pas comme c'est fini. Elle a eu vraiment de la chance. Je crois c'était vraiment un secret en elle. Et elle savait très bien que si les gens le savaient, ça serait sa fin. Elle n'était pas bête. Et c'était bien clair, parce que surtout dans les années 30, à partir de 33, il y avait tant de fugitifs qui venaient d'Allemagne. Elle en parle. On parlait pas de ça. Et vraiment, dans ces journaux, c'est un sujet qu'elle évite.
Alors, je vais juste revenir parce que c'est vrai que vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage de ce traumatisme aussi que Sonia a vécu très jeune, puisqu'on l'a un peu arraché, on l'a arraché même à sa famille.
Sauf que c'est jamais par elle présenté comme ça. Elle a cette infinie délicatesse d'avoir de la gratitude pour cet oncle, surtout cet oncle. Parce qu'elle n'aime pas les femmes, elle n'aime pas les mères, elle a un vrai rejet de toute transmission maternelle. Mais elle a... Elle n'a jamais dit qu'elle était traumatisée. C'est nous qui le découvrons en travaillant sur sa bio, mais voilà, elle a donc ce côté. Elle n'aime pas le fait que sa mère ait été plaintive et que c'est la seule image de sa mère qu'elle garde, parce que s'il n'y avait pas eu la plainte de sa mère, cet oncle ne serait jamais venu la chercher. Donc, on peut attribuer ce rejet de la mère victime par le fait qu'elle ait été arrachée à cause de ça. Elle garde une image totalement bande dessinée de son père. On sait même pas si ça a existé, ce père-là. Mais bon, il était beau, il était fort, il était courageux. Très bien. On a que des images incroyables. On traverse des haies de neige, de congères pour aller porter le sandwich, enfin, ce qu'on mange à midi au père qui travaille, dans des couleurs que la neige exalte. Et donc, c'est des souvenirs déjà de peintre, en fait. C'est pas des souvenirs affectifs, c'est pas des souvenirs sentimentaux. C'est intéressant d'ailleurs, parce que elle en parle à un de ses copains, elle écrit à un de ses copains, c'est dans des lettres amicales, où elle dit « je vais quitter ces gens, ce pays, je n'ai pas de lien ». Et elle a pas de lien, évidemment qu'elle en a, mais elle est dans le déni absolu. Et le déni dure longtemps, parce que moi j'ai réussi à lire 2-3 échanges avec sa mère, à me le faire traduire par... une russophone, c'est écrit en russe, elle envoie des chèques après la mort de son oncle et sa tante. Elle envoie des chèques à sa mère, qui est veuve, depuis Paris, où elle, sa mère la connaît pas, sa mère est jamais venue la voir à Paris, sa mère connaît pas son fils, enfin, c'est une rupture totale, mais elle lui envoie de l'argent, sans un mot.
Sonia Delaunay.
Je ne tiens pas particulièrement aux femmes. Je suis plutôt avec des hommes et des jeunes. Parce qu'ils n'ont pas le petit côté féminin qui m'agace. J'aime beaucoup Berthe Morisot, j'aime beaucoup de femmes mais qui ont fait quelque chose. Marcel Kahn, par exemple, qui lutte toute seule. Il y a différentes femmes que j'estime, mais je ne suis pas proche d'elles. Je suis née en Russie. J'avais un milieu de jeunes filles, là je m'entendais. Parce qu'il y avait, qui ont lâché la maison pour aller dans le peuple, qui ont tout lâché. Moi je respecte tout ce qui est idée pure. Pour créer le climat de création, il faut être très indépendant pour être libre. J'étais toujours libre et je ne m'arrêtais pas devant la question argent. Et je me débattais dans 1000 difficultés avec et sans mon mari, parce que lui, il était tout à fait incapable de la lutte avec la vie. À la fin de la vie, il a dit, quand je me suis mariée, tu étais un ange et moi un diable. Et maintenant, nous sommes pareils.
Jacques Damas jugeait le travail de Sonia Delaunay un peu effacé par celui de son mari, Robert Delaunay.
Oui, effacé à la fois... par les faits et par décision. Parce que Sonia a été très attachée à Robert. Ils travaillaient ensemble tout le temps. Apollinaire avait dit, les Delaunay, quand ils se réveillent, ils parlent peinture. C'était vraiment un couple très uni et qui travaillait de concert sur des mêmes thèmes, sur des mêmes réflexions et qui s'influençaient. Elle a dit dans le film que j'ai fait sur elle, elle dit, on s'influençait mutuellement parce que c'était les mêmes recherches. Donc, Robert et Sonia Delaunay étaient vraiment très unis à la fois dans la vie et dans la recherche. Et quand Robert est mort, elle a préféré, bon, à part le deuil, je pense que le deuil a été difficile, mais qu'en plus, elle a décidé de faire en sorte que l'œuvre de Robert ne disparaisse pas. Sonia s'est attachée à placer des œuvres de Robert dans les grands musées, a beaucoup fait pour que on parle de lui, a fait des donations de ses tableaux, dont une au musée d'art moderne de la ville de Paris, elle a fait des donations au musée des arts décoratifs. Elle s'est occupée du devenir de l'œuvre. Et d'une certaine façon, elle s'est moins occupée d'elle-même et de son travail à elle. Donc forcément, déjà que les gens ont tendance à privilégier les artistes hommes à cette époque, on le sait, mais en plus, elle-même s'est mise en retrait. Donc, dans les années 60, quand Jacques a rencontré Sonia, on ne peut pas dire qu'elle était inconnue, il y avait des tableaux d'elle un peu partout quand même, mais elle avait passé une espèce de période où elle avait un peu disparu de la lumière des projecteurs.
C'est plus à la fin de sa vie qu'elle est reconnue comme une figure vraiment majeure de l'abstraction.
Alors c'est plus complexe que cela. Elle est connue comme étant donc une figure pionnière de l'abstraction. Mais sa principale préoccupation en 1945, quand elle rentre à Paris, au tout début de l'année 1945, c'est de faire reconnaître Robert Delaunay comme l'un des pionniers de l'abstraction. Alors pourquoi le fait-elle avec autant de foi et de véhémence? C'est parce que la plupart des pionniers sont morts. Et pendant la guerre, Kandinsky, Mondrian ont disparu, bien avant et bien plus tôt Malevitch. Donc c'est vraiment le moment où va commencer à s'écrire l'histoire de l'abstraction. Parce qu'il y a eu bien sûr des traités, il y a eu des expositions, mais on n'avait pas encore de recul suffisant sur cette période pour vraiment désigner les figures pionnières et essentielles de ce courant de la non-figuration.
Mais on ne peut pas être femme et pionnière à ce moment-là d'un courant?
Non, parce qu'il y a deux choses. Donc d'abord, en effet, elle était femme d'artiste. Donc elle était femme artiste, mais aussi femme d'artiste. Donc il y a vraiment cette volonté aussi de rendre hommage à son mari disparu. Et puis l'autre chose, c'est est-ce que lui reprochera de manière assez directe Michel Sefort, c'est qu'elle s'était, entre guillemets, pervertie dans le domaine de la mode et du textile. Donc ça n'était pas une artiste à part entière. Si vous voulez, son abstraction n'était pas pure. Et ça, c'est vraiment frappant parce que c'est une omerta qui a duré ensuite quasiment jusqu'à la fin du XXe siècle. Donc on l'a mise de côté. Elle s'est mise de côté, mais on l'a aussi mise de côté dans, justement, cette première histoire de l'abstraction.
Moi, je vous dis, j'ai vécu et j'ai peint. J'ai encore beaucoup à apprendre, à mettre au point dans ce que je fais. Je vis la couleur, je l'aime et je la connais. Je sais que chaque couleur a sa vie propre.
Vous avez vu l'atelier de Sonia Delaunay?
Bien sûr. J'ai des très bons souvenirs parce que j'étais 3 ans et demi. C'était en mai 1956 que j'étais avec mon père et ma mère à Paris avec ma sœur. Et mon père a dit, on va voir Sonia Delaunay et on va voir son atelier. Et moi, je savais ce que voudrait dire un atelier, parce que je connaissais assez des peintres, ou ça veut dire mes parents connaissaient des peintres, et je savais que dans un atelier, il faut se taire et il faut taire en bonne forme. Alors, j'entrais l'atelier, elle était à la rue Saint-Simon, c'était un atelier duplex, et on arrivait en haut, et il y avait un escalier assez étroit pour descendre. Et j'étais un petit garçon, et quand j'étais sur l'escalier, je voyais toutes les peintures qui étaient là, des grandes formes circulaires, il y avait des plantes énormes, et toutes ces couleurs, c'était une explosion dans mes yeux. J'étais high, comme on dit, j'étais drogué dans une exposition, je suis tombé presque de l'atelier parce que ça m'a bouleversé énormément. Alors cette impression, ça restait avec ma vie parce que je vis avec sa peinture et j'ai bien connu son esprit et sa personnalité. Et c'était des couleurs, c'était incroyable cet atelier.
Ça, c'est de la promenade journalière. Vu que j'ai pas le temps de marcher, je prends l'air comme ça, une heure par jour. Non, parce que je suis pressée de travailler.
Elle est très très vieille. Elle continue de peindre. Elle est debout sur une échelle pour finir un tableau. Elle tombe. Elle est donc paralysée. Ça ne change rien. Elle va recevoir une médaille, je ne sais pas si la Légion d'honneur ou quelque chose. Elle va se lever de sa chaise roulante pour la recevoir. Ça ne change rien, elle continue à peindre pareil. Juste, il y a une infirmière qui vient le matin la lever pour la mettre dans sa chaise pour aller travailler, enfin dans l'atelier, elle habite l'atelier. Et le soir, la coucher. C'est tout. C'est tout. C'est incroyable, c'est très vieille dame, ça. Et donc un matin du mois de décembre 79, elle attend l'infirmière pour aller au travail. L'infirmière l'aide à s'habiller. Elle lève les bras pour se lever. L'infirmière la lève et elle est retombée morte en ayant dit « Vite, j'ai du travail ».
Des couleurs dans les yeux, avec Matteo De Leo De Monti, petit-fils du créateur de la maison Metsenko, ami et collaborateur de Sonia Delaunay dès les années 1930. Sophie Chauveau, écrivaine et autrice de l'ouvrage Sonia Delaunay, la vie magnifique. Patrick Reynaud, galeriste, plasticien, cinéaste et réalisateur d'un court-métrage sur Sonia Delaunay, prise de vue pour une monographie dont nous avons diffusé des extraits. Cécile Godefroy, historienne de l'art, co-commissaire de la rétrospective consacrée à l'œuvre de Sonia Delaunay au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Archivina, Clary Monac. Mixage, Guillaume Ledu. Coordination, Christine Bernard. Réalisation, Lionel Quentin. Un documentaire de Lénora Krief.